Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien écoute, contrairement au monde qui m'entoure, moi je vais pas trop mal. Et toi-même ?
Ben écoute, je crois que je pourrais dire exactement la même chose. Renaud, nous sommes à la cinquième émission de la saison 9 de l'économie pour tous. Et au cours de cette saison, nous essayons de décortiquer un petit peu les causes de l'inflation. Alors ces causes, nous les avons déjà envisagées avec toi au cours des semaines précédentes. Et tu nous as évoqué les différentes causes théoriques de l'inflation. En tout cas, tu l'as évoqué de façon générale. Et donc peut-être que à partir de maintenant, on va être peut-être un petit peu plus spécifique sur la période actuelle et ce qui la différencie des précédentes périodes qu'on a vécues. Notamment depuis le début des années 2000, voire même avant.
Alors, ce qui la différencie, c'est que vraiment cette fois-ci, nous avons tous les déterminants qui entraînent l'inflation, qui en même temps fonctionnent pour générer de l'inflation. D'habitude, lorsqu'on a de l'inflation, on a un élément déclencheur, d'un seul coup un choc de demande positif, ou une diminution du taux de change, ou un choc de productivité négatif. Mais là, c'est la première fois qu'on a à peu près tout. On a à la fois une partie de l'inflation qui provient des coûts, hein, donc évidemment on le sait tous avec la guerre en Ukraine, le renrichissement de tout un ensemble de matières premières, et puis aussi des difficultés de récolte dans le monde liées à des phénomènes climatiques et au réchauffement climatique de manière plus générale. On a aussi une inflation par la demande, parce qu'à la suite du confinement, eh bien, les Français ont été beaucoup épargnés pendant le confinement, et donc depuis, ben, ils ont essayé un peu de rattraper le temps perdu, en quelque sorte, en termes de consommation. Et voilà. Et c'est ça qui rend cette inflation extrêmement difficile, en fait, à juguler, comme on va le voir. D'autant plus que l'inflation, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, a un effet extrêmement autoréalisateur. C'est-à-dire que quand on commence à avoir de l'inflation, il y a un cercle vicieux qui se met en place, parce que légitimement, lorsqu'il y a de l'inflation, les salariés réclament des hausses de salaire.
Mmh. Et s'ils obtiennent une hausse des coûts de salaire, de nouveau, etc.
Exactement, exactement. Et ce qui vient de nouveau entretenir l'inflation. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, une fois que l'inflation est là, de pouvoir s'en débarrasser.
D'accord. Alors, donc, si on comprend bien ce que tu dis, Renaud, on est dans une zone historiquement sans précédent. Et est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui risque d'être durable ?
Alors, l'objet des émissions à venir va justement essayer d'essayer de répondre à cette question de manière un peu, si possible, argumentée et précise. Mais pour aller à l'essentiel, tout dépendra en fait des politiques qui vont être menées et de la manière dont les populations vont réagir à cette situation. Il y a un moyen très simple de casser l'inflation, mais il n'est pas sans effet secondaire majeur pour une partie de la population. C'est le blocage des salaires, par exemple, le blocage des prix, des politiques restrictives, de rigueur, où l'État réduit fortement sa demande pour justement lutter contre l'inflation par la demande. Et ça, généralement, ça fonctionne et relativement rapidement. Mais à quel prix ? Et au prix, pour une partie, par exemple, des classes populaires, d'une vraie remise en question, en fait, de leur niveau de vie qui est déjà faible. Donc la question, en fait, elle est un peu là, quoi. C'est dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de lutter contre l'inflation sans forcément que ça se traduise par un accroissement du taux de pauvreté, en particulier pour les populations les plus démunies.
Oui, alors en quoi est-ce que ça se traduit, ces mesures, par un appauvrissement relatif des gens les plus défavorisés, dans la mesure où tu parles à la fois d'un blocage des salaires, mais aussi des prix ?
Oui, alors le fond du problème, en fait, c'est que, effectivement, lorsqu'on calcule le pouvoir d'achat, on compare l'évolution des salaires à l'évolution des prix. Or, quand bien même on met un blocage des prix, en fait, on peut pas mettre un blocage des prix total. Ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a des prix qui simplement augmentent naturellement, j'ai envie de te dire, par le jeu de l'offre et de la demande. Il y a, ou là, aujourd'hui, les boulangers, ils vont vous expliquer que, bah, même si vous voulez, si vous bloquez leurs prix, les boulangers, ils ferment boutique et il y a plus de boulangerie. Donc, évidemment, que le gouvernement peut pas mettre ça en place. Donc, quand je parlais de blocage des prix, je parlais plutôt de, voilà, mesures qui vont dans le sens d'une limitation de la hausse des prix. Par contre, le gel des salaires, ça, on sait ce que c'est. Ça a déjà existé hein, dans l'histoire. Et donc, forcément, si les prix augmentent moins vite, mais augmentent quand même, et que les salaires sont gelés, automatiquement, le pouvoir d'achat diminue. Et les premiers touchés, ce sont les plus bas revenus.
D'accord.
Alors, Eric, moi, cette émission, au départ, mais tes questions originales étaient très intéressantes à traiter, mais on va développer, en fait, toutes ces explications dans les émissions à venir. Mais mon propos originel, en fait, c'était de revenir sur un point que j'avais à peine abordé dans l'émission précédente, qui était celle des politiques monétaires, où j'avais expliqué que la manière dont on mettait en place des politiques monétaires pouvait expliquer l'évolution de l'inflation. Et justement, tu m'avais dit, mais est-ce que c'est ça qui a pu expliquer qu'à la fin des années 90, et au début des années 2000, c'est-à-dire au moment où l'euro a été mis en place, eh bien, on a eu une telle inflation si basse. Est-ce qu'il y a un lien, finalement, entre la mise en place de l'euro et le fait que l'inflation ait été jugulée, en fait, sur une période aussi longue? Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est toi-même qui m'avais posé la question.
Je me souviens extrêmement bien, Renaud, et d'ailleurs, cette question taraude mon esprit depuis.
Donc, l'idée, en fait, c'était de revenir un peu là-dessus. On a expliqué qu'une des causes de l'inflation, ça pouvait être la demande, qui était supérieure à l'offre, donc un choc de demande positif. Et cette hausse de la demande, elle peut provenir, c'est pas la seule explication, on a vu qu'il y en avait deux. La première, c'était que les agents économiques peuvent choisir de moins épargner et donc de dépenser plus. Donc là, on a automatiquement une hausse de la demande alors que la masse monétaire est restée inchangée. Mais on peut aussi avoir, en fait, une deuxième cause à la hausse de la demande qui est ce qu'on appelle une politique monétaire expansive. C'est-à-dire que d'un seul coup, la masse monétaire s'accroît et comme la masse monétaire s'accroît, eh bien, il y a plus de liquidités, en fait, de disponibles pour les agents économiques qui peuvent en profiter pour consommer plus. Bon. Donc, si on veut lutter contre l'inflation, eh bien, l'idée première, a priori, c'est d'essayer de réduire cette masse monétaire. Parce que s'il y a moins de masse monétaire en circulation, il y aura moins de consommation. S'il y a moins de consommation, la demande va diminuer. Et si la demande diminue, jeu de l'offre et de la demande, ça doit tirer les prix vers le bas. Donc, ça doit empêcher, justement, l'inflation de perdurer. Il se trouve que nous avons un organisme, alors en Europe, mais dans le monde entier, il y en a partout, qui est chargé de gérer la masse monétaire en circulation. Donc je suppose, Eric, que tu connais son nom.
C'est la BCE, la Banque Centrale Européenne.
Exactement, Eric. Donc la Banque Centrale Européenne est chargée, justement, de veiller à l'évolution de la masse monétaire en Europe. Et justement, sous l'impulsion de l'Allemagne, qui... paraît-il, alors je ne suis pas spécialiste de la culture allemande, mais paraît-il que les Allemands ont été tellement traumatisés par l'hyperinflation des années 20 que depuis c'est une sorte de norme sociale intangible qu'il faut lutter contre l'inflation. Lorsque dans les années 90, on a fait le traité de Maastricht, donc enfin à la fin des années 80, on l'a écrit le traité de Maastricht, on l'a voté au début des années 90. Lorsqu'on l'a fait, les Allemands donc ont insisté pour que la future institution européenne qui allait gérer l'euro, donc la monnaie unique et la quantité d'euros en circulation, est pour objectif premier la lutte contre l'inflation. Et justement, c'est ce qu'il y était d'indiquer dans le traité de Maastricht, que cette Banque Centrale Européenne qui allait être créée, son article 1, il ne faut pas chercher plus loin, son article 1, c'est que son rôle, c'est de lutter contre l'inflation. Point final. Alors, j'exagère un peu en disant point final, mais pas beaucoup. En fait, la BCE, elle doit lutter contre l'inflation et éventuellement tout faire pour qu'il y ait de la croissance et de l'emploi, et maintenant aujourd'hui de la transition écologique, mais à l'unique condition que cela ne remette pas en question son objectif premier, qui est la lutte contre l'inflation.
Alors ça, on l'avait compris hein, depuis le début de l'Europe, que le credo numéro un de l'Europe, c'était justement que le taux d'inflation ne soit pas trop élevé. Et d'ailleurs, les pays, me semble-t-il, qui s'écartaient un petit peu de la norme, je crois que le maximum possible, c'était de 3%, se faisaient rudement taper sur les doigts, non ?
Oui, alors la norme, ce n'était pas 3%, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'effectivement, pour rentrer dans l'euro, il fallait respecter des critères. Et l'un de ces critères était qu'il fallait avoir un taux d'inflation qui ne soit pas trop élevé. Alors, comme je sais que tu es un aficionado, Cédric, de la précision et de la technicité des critères au sein de l'Union européenne,
absolument.
Je vais te donner le critère précis. Voilà, je vais te donner le critère précis. C'est que pour pouvoir entrer dans la zone euro, il fallait avoir un taux d'inflation qui ne soit pas supérieur de plus de 2 points au taux d'inflation moyen des 3 pays qui étaient dans la zone euro et qui avaient le taux d'inflation le plus faible.
D'accord.
Alors,
précis,
c'est pas évident à saisir comme ça, mais l'idée, c'était que tous ceux qui rentraient dans la zone euro, on prenait les trois pays qui avaient le taux d'inflation le plus faible. Donc, admettons qu'à eux trois, ils avaient un taux d'inflation moyen de 1%. Eh bien, on expliquait que pour rentrer dans la zone euro, en l'occurrence, il fallait pas dépasser 3% d'inflation.
Ce qui veut dire que l'ensemble des pays de la zone euro, dans ces conditions, ne représentait qu'un peloton de tête. Il y avait vraiment un écart maximal de 2 points entre les premiers et les derniers. Donc, c'est ça que ça voulait dire.
C'est ça, c'est ça. Mais mais en même temps, ça se comprenait. Parce que quand vous voulez mettre un espace monétaire commun, l'idée, c'est qu'à minima, il faut que les conditions monétaires qui existent dans chaque pays soient peu ou prou pas trop éloignées les unes des autres, quoi. Parce que sinon, ça rendait la gestion, justement, de cet instrument de monnaie unique un peu compliqué. Donc, l'objectif, c'était de lutter contre l'inflation. La Banque centrale a été créée en, je sais pas si tu sais, Eric.
Bon, je dirais juste après le traité de Maastricht, non ? En 99 ?
Oui, c'est ça, 1994, en fait, qu'elle a été créée. Et c'est en 99 que l'euro est mis en place, mais uniquement de manière scripturale, c'est-à-dire par des jeux d'écriture. En gros, pour toi et moi, Eric, on n'a pas vu la couleur de l'euro en 1999.
Non, on l'a vu en 2001.
Parce qu'on n'était pas concernés. 2002.
2002.
2002. C'est le 1er janvier 2002, en fait, que non seulement il y a eu la monnaie euro, en fiduciaire, en pièces et billets, mais qu'en plus, on a réellement pu payer en euros. Alors, justement, cette Banque Centrale Européenne, à peine elle a été mise en place, elle a dit, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'une fois que l'euro soit là, il n'y ait pas d'inflation. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas d'inflation? Eh bien, principe numéro un, il faut qu'il n'y ait pas trop de masse monétaire. En tout cas, il faut que la masse monétaire n'augmente pas trop.
Alors, comment est-ce qu'on fait ça?
Or, le problème, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la Banque Centrale Européenne qui décide directement du nombre d'euros en circulation. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, Eric, à chaque fois que tu me fais un virement bancaire, à chaque fois que tu me fais un chèque, eh bien, tu ne payes pas avec la monnaie qui est émise par la Banque Centrale Européenne.
Je crée de la monnaie, c'est ça ?
Alors, en l'occurrence, tu n'en crées pas forcément, mais tu utilises une monnaie qui, auparavant, a été créée, parce que peut-être que cette monnaie que tu as reçue, tu l'as reçue d'un tiers qui lui-même avait fait un prêt bancaire où la monnaie avait été créée. Donc, indirectement, de toute façon, à un moment ou à un autre, la monnaie qu'on utilise, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et ce quelqu'un, c'est une banque. Parce que ceux qui ont le pouvoir de création monétaire, ce sont les banques. Société Générale, Banque Populaire, Crédit Mutuel, etc. À chaque fois qu'elles vous font un prêt, à chaque fois qu'elles vous font un prêt, elles augmentent la masse monétaire. Quand tu reçois un prêt de 10 000 euros, Eric, on a pris les 10 000 euros à personne. Donc, la quantité de monnaie qu'on a tous reste la même. Mais toi, d'un seul coup, on a ajouté 10 000 euros sur ton compte. Donc, la masse monétaire vient de s'accroître de 10 000 euros. Mais ça, c'est pas la banque centrale qui le gère. Ce sont les banques, chacune individuellement, qui décident du nombre de prêts qu'elles émettent et de la monnaie qu'elles émettent. Donc, évidemment, les choses sont pas si simples que ça. La Banque Centrale Européenne peut agir, mais elle peut agir de manière indirecte. Alors, on va pas rentrer dans les détails techniques, là, même si je sais que tu aimes beaucoup ça, Eric. Donc, en fait, la Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut dire aux banques, lorsque vous créez de la monnaie, le problème, c'est que si vous en créez beaucoup, à un moment donné, vous allez devoir vous refinancer auprès de nous. Parce que vous allez devoir cette monnaie à d'autres banques, parce que vos clients, ils ont fait des chèques, ils ont fait des virements à des clients d'autres banques, donc les autres banques vont se retourner vers vous pour vous réclamer cette somme. Et cette somme, vous venez de la créer. Mais cette création que vous venez de réaliser, les autres banques n'en veulent pas. C'est comme si moi, je créais des petits billets où je marquais Renault Chartoir dessus. Toi, tu les acceptes parce que tu es un ami à moi. Mais si tu vas à la boulangerie, je pense qu'il y a peu de chances que tu repartes avec du pain et des pains au chocolat en ayant voulu payer avec des petits billets Renault Chartoir.
Alors écoute, Renault, je vais essayer dès demain et je te dirai ce que ça a donné.
Eh ben, rendez-vous la semaine prochaine, hein, en direct. Nous allons faire une expérience naturelle en économie. C'est beau, c'est beau. Et donc, le fonctionnement du système peut sembler un peu complexe, mais donc les banques entre elles n'acceptent pas la monnaie des autres banques. Elles n'acceptent qu'une seule monnaie, qui est celle qui est émise par la banque centrale. Et donc, quand une banque a émis un peu trop de crédit, eh bien, elle doit se refinancer en monnaie banque centrale auprès de la banque centrale. Mais en contrepartie, cette banque centrale lui impose un taux d'intérêt. Et il a un nom particulier, ce taux d'intérêt, je ne sais pas.
Ah oui, il fait la une de l'actualité en ce moment, c'est le taux d'usure.
Ah ouais, mais en l'occurrence, c'est pas ça. Mais même si c'est la banque centrale qui décide du taux d'usure. Oui, non, mais c'est vrai que ça fait l'actualité en ce moment. Donc le taux d'usure, c'est en fait la banque centrale qui décrète le taux maximum auquel les banques peuvent prêter à des clients pour éviter justement qu'il y ait que les banques soient en position de force et puissent imposer des taux qui soient relativement rédhibitoires, que le rapport de force soit trop en leur faveur. Non, le taux d'intérêt que les banques payent à la banque centrale, c'est le taux directeur.
Alors, d'accord, donc, oui.
Tu as peut-être déjà entendu le terme.
Oui, bien sûr, directeur. Renaud, dans de précédentes émissions, tu avais déjà évoqué cette question. Oui. Alors excuse-moi d'avoir oublié cela, mais c'était il y a quelques années.
Ce n'est pas grave du tout, puis il a été perturbé par le taux d'usure, ce que je comprends parfaitement. Et donc, il suffit à la Banque centrale d'augmenter ses taux directeurs pour envoyer comme message aux banques, attention, si vous continuez à émettre autant de crédits qu'avant, c'est-à-dire si vous continuez à créer autant de monnaie qu'avant, eh bien à un moment ou un autre, vous allez devoir vous refinancer auprès de nous et ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'avant. Donc faites bien attention, parce que soit cela implique que vous allez réduire vos profits, soit cela implique que vous allez devoir augmenter les taux d'intérêt que vous faites subir à vos clients. Et donc vous allez perdre vos clients. Donc lorsque la banque centrale augmente ses taux directeurs, eh bien le message qui est envoyé aux banques, c'est créer un peu moins de monnaie pour que la masse monétaire n'augmente plus et que donc on puisse lutter contre l'inflation.
D'accord, alors en quoi consiste cette opération de refinancement des banques ?
Ah bah, tout bêtement, je suis la banque Chartoire, je t'ai fait un prêt de 10 000 euros. Avec ce prêt de 10 000 euros, tu vas payer un client d'une autre banque. Cette client de l'autre banque a récupéré ton chèque, il le dépose à sa banque en disant « créditez-moi mon compte de 10 000 euros ». La banque, elle dit « très bien, mais moi les 10 000 euros, je les ai pas. Donc je vais aller m'adresser à la banque Chartoire. » Et moi, je dis « bah oui, mais là les 10 000 euros, je les ai créés ». L'autre banque me dit « moi, je veux pas de cette monnaie-là, je veux de la monnaie banque centrale ». Donc, je suis obligé de me tourner vers la banque centrale pour dire « est-ce que vous pourriez me prêter 10 000 euros ?» La banque centrale répond « oui, mais vous allez payer un taux directeur. Et plus ce taux est élevé, plus mes profits vont s'effondrer. Donc, je n'ai pas intérêt à le faire. »
D'accord.
Et parce que je vois que le temps avance, Eric, malheureusement, le temps passe tellement vite dans ta compagnie. Et en fait, c'est exactement ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne depuis qu'elle a été créée. Elle a systématiquement mis des taux directeurs relativement élevés. Alors, pas pendant la crise des subprimes, mais ce qui a suivi, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais effectivement, ça a été sa politique. Et je te signale, Eric, qu'au mois de juillet, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs. Elle a augmenté de je ne sais plus combien de dizaines de points de pourcentage. Mais c'est la première fois depuis la création de la BCE qu'elle augmentait autant ses taux directeurs. Donc c'est bien d'accord. Pour montrer que là, elle a envoyé un message fort aux banques qui consiste à dire on va tenter de lutter contre un des critères qui est l'inflation par la demande.
Alors, du coup, Renaud, il y a une question que je me pose tout naturellement, et peut-être que tu n'auras pas le temps d'y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, je la pose pour la semaine prochaine au moins. Puisque la Banque centrale a tant augmenté son taux directeur, comment se fait-il que les banques continuent à prêter, d'une part, et comment se fait-il que dans l'actualité toute récente, on ait entendu dire que les conditions de prêt immobilier allaient s'élargir et qu'on allait permettre à davantage de gens de s'endetter dans ce domaine ?
Eh bien, écoute, Eric, ce que je te propose, et c'est pas du tout pour évacuer ta question, c'est que là, ça va me demander de développer un petit peu, et nous sommes déjà à 19 minutes d'émission, donc je te propose qu'on démarre là-dessus, en fait, lors de la prochaine émission.
Eh bien, très bien. Rendez-vous est pris, donc, comme d'habitude. Merci, Renaud.
Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tes interventions toujours pertinentes, Eric, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Et un tantinet perturbatrice, j'en ai bien conscience.
Non, pas du tout. Ça m'évite de faire un monologue trop long, donc c'est très bien. C'est mieux pour les auditeurs.
À la semaine prochaine, Renaud.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.